Le podcast For Good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif.
On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués
qui sentent bon l'eau de Cologne, durable, équitable et responsable.
Alors pour cette édition, j'ai le plaisir d'accueillir Déborah Pardo. Déborah, bonjour et merci de m'accorder cette petite entrevue.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, j'aurais souhaité te laisser la parole car on aimerait mieux apprendre à te connaître. On souhaiterait comprendre d'où tu viens, ton engagement pour l'environnement et comment est né le projet Earthship Sisters. Tu m'excuseras la prononciation, mon anglais est un petit peu moyen, surtout au niveau de la prononciation. Alors dans notre discussion aujourd'hui, hein, on va évoquer ton parcours, on va parler environnement, peut-être un peu voyage, business. Et j'ai envie de commencer tout de suite avec une première question pour apprendre à mieux te connaître. Déborah Pardo, en quelques mots, c'est qui ?
Eh bien, je suis Marseillaise, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants et puis je viens d'une famille qui est arrivée d'Afrique du Nord, qui a dû partir en très peu de temps, donc qui est arrivée à Marseille. Et donc, ils ont toujours vécu avec peu de choses et ils m'ont appris à respecter tout ce qu'il y avait autour de moi. Et ça s'est transformé en passion pour l'écologie.
Super. Et justement, donc, pour avoir regardé un petit peu ton parcours, on voit que tu es très, très investi dans l'écologie, comme tu viens de le dire. Et tu as l'air d'avoir voyagé régulièrement, d'avoir déjà vu beaucoup de choses. Que t'ont apporté ces aventures ? Dans ta volonté d'entreprendre et justement de préserver l'environnement. Bonjour jeune homme.
Eh bien, donc tu vois, je suis en train d'enregistrer une émission, donc tu ressens, tu fais pas de bruit.
C'est pas grave.
Vous pouvez répéter la question ?
Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, ton parcours, si tu veux, montre voilà, que tu as toujours été relativement engagé pour protéger l'environnement et tu as aussi beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a un lien entre ces voyages et ce besoin de protéger l'environnement et d'où vient-il en fait ? Quel est ce lien ?
Ok, merci. Alors, au départ, j'ai pris la voie de la recherche pour la protection de la biodiversité. La voie principale qui allait me permettre de protéger l'environnement. Donc déjà, une définition importante, quand on parle d'écologie ici, on parle de la définition scientifique de l'écologie, c'est-à-dire l'étude de la relation entre les êtres vivants et leur environnement. Donc on ne parle pas d'écologie politique, de tri des déchets dans les villes, enfin c'est pas du tout ça. On parle vraiment de la relation entre les êtres vivants et moi c'était ce qui me fascinait, c'était ce que je voulais vraiment comprendre pour le protéger. C'est ce que j'ai fait dans une première partie de ma carrière, donc avec un doctorat, puis un post-doc de 5 ans à Cambridge, à l'Institut Polaire Britannique. C'est dans ce cadre-là que j'ai beaucoup voyagé, donc soit pour des conférences scientifiques, soit pour faire du terrain sur les oiseaux marins en Méditerranée, en Arctique, en Antarctique, dans les tropiques. J'ai fait un petit peu plusieurs milieux. Et puis, je me suis finalement spécialisée sur les albatros en Antarctique. Donc, depuis que j'ai quitté la recherche il y a 5 ans maintenant, je continue de voyager un petit peu moins. Donc, je voyage plus en France, en Europe, pour donner des conférences, en train, tout le temps. Et puis, je continue d'être guide en Antarctique sur des bateaux de croisière à petite échelle. Et donc là, oui, je continue de prendre l'avion et de voyager une fois par an. Et ensuite, j'essaye de monter de temps en temps des expéditions en Arctique avec des jeunes en difficulté pour leur montrer un petit peu ce qui se passe. Donc oui, pour moi, être au contact du terrain, c'est quelque chose qui est à la base de la compréhension de la nature. Mais j'insiste, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour s'émerveiller. Et là, d'ailleurs, mon fils est dehors avec un tupperware et des mille pattes il voit comment il s'entraîne pour sortir du...
Il découvre la biodiversité près de chez lui. C'est une première approche, je suppose, à son âge. Si je peux me permettre, quel âge il a
7 ans.
D'accord, ok, donc ouais, c'est l'âge vraiment de la curiosité.
Ah ouais, bien là.
Justement, en parlant de cette curiosité, je pense que tu l'as relativement bien développée au fur et à mesure des années. Et il y a quelques temps est née Archive Sister. J'aimerais comprendre de quel constat est né ce projet.
Donc, quand j'ai décidé de quitter la recherche, alors que j'étais à l'origine dans mon job de rêve, c'était parce que je m'y reconnaissais plus. Et puis surtout, je sentais que j'avais trop peu d'impact par rapport à l'urgence de protéger la biodiversité. Donc, on est aujourd'hui dans une sixième crise d'extinction de masse de la biodiversité, qui est la plus rapide jamais vue dans l'histoire de la vie sur Terre, depuis 3 milliards d'années. Moi, je tolère pas la situation, en fait, de voir que tout le monde, normalement, en gardant son confort et en pensant à soi, avant de mettre en priorité le bien commun pour nous. Donc, j'ai décidé de quitter la recherche parce que je trouvais que c'était au final réservé à une élite et qu'on n'était pas bons, nous les scientifiques, pour communiquer de façon inspirante à l'extérieur. Et voilà, c'est la mission que je me suis donnée. Donc aujourd'hui, elle se matérialise en deux grandes casquettes. Une casquette de conférencière, de guide d'expédition, de scientifique freelance en consultant dans des organisations d'une part. Et de l'autre part, tout le mouvement Archive Sisters, que j'ai cofondé il y a 4 ans maintenant, et qui part du constat que, le constat dont je viens de parler, mais qui essaye d'apporter une solution en travaillant sur le leadership environnemental des gens, et des femmes en particulier, pour qu'elles-mêmes puissent semer l'envie d'agir. Et on ne veut pas juste faire ça en prêchant la bonne parole, on fait ça avec de la navigation, et avec un programme d'incubateur créer des activités professionnelles vertueuses dans tous les sens du terme.
Ok. Et jusqu'à présent, tu as accompagné combien de femmes depuis la naissance de Archive Sister?
Ouais, alors elles étaient 14 en promo 1, 17 en promo 2, et là elles sont 17 en promo 3. Donc j'ai pas exactement fait le calcul, ça fait 48.
Ouais, c'est ça, exactement. Tu me fais rappeler moi. Génial. Et pour une femme qui voit le projet Archive Sister, qui a envie de prendre contact, à quoi est-ce qu'elle doit s'attendre dans les grandes lignes, hein, je sais que c'est très complexe, mais à quoi est-ce qu'elle doit s'attendre lorsqu'elle prend contact avec vous?
Alors, on s'adresse à des femmes vraiment qui ne doivent pas se mettre de barrières seules au départ. Donc déjà, ça c'est un constat important. Elles peuvent être de tout âge à partir du moment où elles sont majeures, de tous horizons professionnels, peu importe ce qu'elles font actuellement ou ce qu'elles ont fait avant, de tous horizons géographiques, puisque aujourd'hui on a des sisters qui sont sur 3 continents, sur 10 pays différents, donc on a un programme qui est essentiellement à distance ou un programme en présentiel pour celles qui sont capables de venir quand c'est prêt. Et donc voilà, c'est des femmes qui ont envie de porter un projet entrepreneurial pour avoir de l'impact positif sur l'environnement. Donc elles ont une idée en tête et nous on l'aide à la développer pour pas qu'elles soient toutes seules. Et aujourd'hui ça peut être aussi des femmes qui sont intrapreneurs, c'est-à-dire qui vont porter un projet interne à leur entreprise.
Ah t'es sûr. Ok, donc vous accompagnez tout type de femmes qui a vraiment ce projet, un projet on va dire responsable et relié à l'écologie. D'ailleurs, souvent, on a tendance à croire, en tout cas, les mœurs se changent un peu, mais dans l'idée générale, beaucoup de gens pensent que entreprendre de manière responsable, tout en gagnant correctement sa vie, c'est quelque chose de relativement difficile. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là et quels sont les freins pour toi que rencontrent ces personnes-là?
Les personnes qui croient que c'est pas possible de gagner sa vie en faisant un job qui a du sens.
Ouais. Et ceux qui le font et qui justement rencontrent des freins, on va dire.
Et ben moi justement je me bats pour montrer que c'est possible. Et mon premier contradicteur entre guillemets c'était mon père. Hein.
Ouais.
Lui il a fait un travail pour mettre sa famille à l'abri, un travail qu'il a toujours trouvé complètement inutile et qu'il détestait. Et du coup moi je me suis mis un peu comme mission de d'aider les gens. En plus de résoudre les problèmes environnementaux locaux, globaux, de se créer une activité professionnelle décente. Et aujourd'hui, on a encore ces biais nuls, inconscients en tête de quelqu'un qui bosse dans l'impact. S'il gagne pas bien sa vie, c'est pas grave. Alors qu'au contraire, il faut absolument que ce soit les gens qui travaillent dans l'impact qui gagnent bien leur vie, plutôt que les gens qui défoncent la planète. Donc moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est que vous vous trompez. Au contraire, il faut contribuer à faire en sorte que les métiers d'avenir, ils permettent à chacun de gagner leur vie décemment.
Et justement, c'est possible carrément. Moi aussi, j'en suis convaincu. Malheureusement, il y a toujours des gens qui pensent différemment. Et pourquoi aujourd'hui tu penses que tout le monde ne poursuit pas cette philosophie un peu de se dire il faut que ce soit ceux qui travaillent dans l'impact positif qui soient les mieux récompensés, on va dire. Attendez, pourquoi on n'y arrive pas encore aujourd'hui?
Alors, déjà, j'ai pas exactement dit ça. Hein. Pour moi, on n'a pas besoin de gagner 100 000 euros par mois, tu vois. Il y a différentes formes de valeurs à considérer. Une rémunération moyenne qui permet de gagner sa vie décemment, d'avoir une maison, d'avoir ce dont on a besoin. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus après. Donc ça, c'est la base au niveau financier. Et ensuite, il y a d'autres formes de rémunération, entre guillemets. C'est le fait de se sentir utile à la société, le fait de se développer, le fait d'être en bonne santé, le fait de travailler avec des gens qui nous apprennent des choses. Donc c'est ces trois formes de rémunération, au final, elles sont c'est la base du bien-être et du bonheur sur Terre pour les humains aujourd'hui. Donc ça passe pas par un salaire énorme.
En effet. D'ailleurs, en parlant de ce bien-être, le dernier rapport du GIEC, je pense que tu l'as vu, il est en train de nous faire comprendre que si on continue dans cette direction, ce bien-être, plus ça ira et plus il sera compromis. Il nous donne 3 ans pour inverser la tendance environnementale et pour inverser la courbe en fait des émissions de CO2. Est-ce que toi, j'aurais 2 questions là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est possible? Et si oui, comment on peut y parvenir?
Wow. Déjà, moi, je fais très attention à ce que fait le GIEC. Non pas parce que je ne crois pas du tout ce qu'ils disent, au contraire, j'apprécie énormément l'approche, mais parce que le climat n'est qu'une des problématiques qui est en face de nous. Pour moi, la problématique majeure, c'est l'extinction de la biodiversité. Il y a 5 causes liées aux activités humaines face à ça, et le climat, c'en est une. Mais il y en a 4 autres. Donc le GIEC, il a été créé dans les années 80, il a 30 ans d'avance sur l'étude des problématiques, mais en réalité, il y en a 5 en tout, il n'y en a pas qu'une. Donc, et je pense que de toute façon, l'approche dont on a parlé juste avant, elle est vertueuse sur ces 5 causes d'extinction. Donc c'est de revenir à quelque chose de plus local, de consommer moins, même si c'est gratuit, etc. Donc moi, est-ce que j'y crois qu'on peut inverser la tendance dans les 3 années qui viennent? Ça dépend des jours. Ouais. Il y a des jours où je me dis, et ça dépend des gens avec qui je suis. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de m'entourer de gens qui veulent faire la transition, parfois au risque de croire qu'on va y arriver et que je suis dans une bulle avec que des gens hyper motivés pour la transition. Et en réalité, des fois, je suis confrontée à des gens mais qui n'en ont rien à faire et j'ai peur que ce soit une majorité encore de gens. Mais comme je suis de nature optimiste, je pense que notamment le Covid, les rapports du GIEC, l'augmentation des événements extrêmes qu'on voit à la télé font qu'aujourd'hui la prise de conscience a touché la majorité de la population, je pense, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a sur le passage à l'action, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense pas que, je veux pas dire ça, mais des fois j'ai du mal à voir comment l'humain en tant que collectif, puisse faire la transition suffisamment rapidement. Et c'est ce qui me fait un petit peu le plus peur au monde, quoi. Parce que je sais que ça implique des dégradations de conditions de vie qui vont toucher les plus pauvres au départ, et les autres vont se mettre sur des îlots de richesses qui vont leur permettre de se protéger jusqu'à ce qu'ils aient plus rien à manger, quoi. Donc ça, c'est le scénario le plus noir. Et en réalité, je pense qu'il faut absolument qu'on se prenne conscience. C'est pour ça que Earthship Sisters porte des valeurs extrêmement positives, qui donne envie de se lancer dans une aventure collective, à la fois individuelle et collective, parce que c'est comme ça qu'on trouvera les solutions. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui a la solution, c'est un collectif de gens qui a la solution. Et il faut qu'on arrête de penser solo, il faut penser à tout le monde.
Le podcast
for good.
Justement, au niveau de ces effets, tu parlais d'effets catastrophiques, on va dire, et qui sont de plus en plus visibles. Toi, qui as été dans l'étude scientifique, notamment très proche, tu m'as dit, des albatros plus tôt, quel constat tu as pu faire auprès d'eux, par exemple, à force de les étudier, de tes propres yeux, qu'est-ce que tu as pu voir, quelle différence tu as pu voir le peu de temps, parce qu'au final, l'échelle... La vie humaine à l'échelle de la Terre, c'est très peu, mais le peu de temps que tu as pu les étudier, quelle différence as-tu pu observer ?
Bah, il y a deux échelles. Il y a l'échelle des données, qui sont sur à peu près 40 ans, où on a des dizaines de milliers d'individus qui sont bagués, et pour lesquels mon travail d'avant, c'était de faire des modèles mathématiques qui montrent comment la population varie dans le temps. Et les paramètres démographiques les plus importants pour une population d'animaux comme les albatros qui vit aussi longtemps, c'est la survie des adultes. Et donc, on voit que la survie des adultes, suivant les espèces, elle est relativement stable, relativement haute, et que de temps en temps, il y a des épisodes où il peut y avoir jusqu'à 20% de la population qui meurt une année donnée, la population des adultes. Et ça, c'est catastrophique.
Comment vous l'expliquez, ces 20% par exemple de chute.
Ce que j'ai montré dans mon dernier article, c'était que c'était une combinaison d'une année avec un climat particulièrement difficile et une année où il y avait beaucoup d'efforts de pêche. Et donc les albatros se rabattent sur les bateaux de pêche parce qu'ils jettent beaucoup de déchets pour pouvoir avoir de la bouffe gratuite parce que les conditions climatiques ne permettent pas de le faire. Et les bateaux de pêche attrapent beaucoup d'albatros. Ça s'appelle la bycatch, une capture accidentelle. Et là, c'était un carnage sur les albatros cette année, cette nuit-là. Mmh. Donc voilà, il y a un travail à la fois avec les pêcheurs à mettre et surtout les armateurs de bateaux pour pouvoir changer les choses. Et les scientifiques ont apporté des solutions main dans la main avec les pêcheurs. Mais maintenant, il faut mettre ça avec des politiques qui obligent à mettre ces choses en place, qui sont quand même rentables par rapport aux enjeux économiques. Et c'est là que j'ai fait la transition, en fait. Je me suis dit que c'est le leadership qui va faire la différence et pas plus de données scientifiques. Donc ça, c'était la première échelle. Et la deuxième échelle, c'était tout simple. C'est quand j'ai passé plusieurs mois sur des îles avec peu des albatros, des manchots, la nature mais extrêmement puissante dans les terres australes françaises, anglaises, argentines. J'avais mis mon portefeuille quelque part. Je vivais avec deux t-shirts, quelques bidons de nourriture, de l'eau de rivière. Et ça suffisait largement en réalité. Il n'y avait pas besoin d'argent, il n'y avait pas besoin de travailler, il n'y avait pas besoin. Enfin, c'était et ce mode de vie complètement différent, tout en observant la nature qui elle était très très en équilibre avec la météo du jour, avec les autres individus. J'ai senti que on se compliquait énormément la vie en fait avec ce qu'on appelle le progrès. Et si on revenait à une forme de sobriété, non seulement ça nous permettrait de résoudre les problématiques qu'on a face à nous, mais en plus on se sent beaucoup mieux quand on a moins de choses. Et ça, c'est difficile à rentrer dans la tête. Moi aussi, j'ai du mal à me l'appliquer. Hein.
Parce qu'on est conditionné.
On a des choses ancrées qui nous font du mal.
Ouais. Mais justement, cette idée de progrès et de confort, est-ce que c'est pas un petit peu ce qui nous pousse à notre perte ? J'ai pas envie de parler comme ça, ça serait pessimiste, mais ce qui nous pousse un peu, ce qui nous emmène vers la direction qu'on est en train de prendre, qui est plutôt négative, est-ce que c'est pas ce confort, ce progrès constant qui vraiment jusqu'ici nous coûte la situation actuelle, quoi ?
Si, et d'ailleurs ça a été prouvé que c'est un défaut de notre cerveau. Dans un livre que j'aime beaucoup de Sébastien Boller, qui s'appelle Le bug humain, il montre que notre cerveau reptilien est fait pour qu'il active notre système de récompense avec la dopamine à chaque fois qu'on a une source de nourriture, un certain statut, accès à la reproduction, accès à l'information et au moindre effort. Et donc, quand tu mets ça dans le monde d'aujourd'hui, donc quand tu imagines, je ne sais pas, un lion qui va rester couché, que c'est les femelles qui vont chasser, qui lui amènent, et lui se bat juste pour défendre son territoire, pour avoir un maximum de descendants, à ce moment-là, le cerveau, il marche pour ça. Mais pour nous, aujourd'hui, dans un monde où on a développé des technologies à partir de la révolution industrielle sur des énergies fossiles, où on n'a plus à travailler, nous, pour produire avec notre corps, c'est à partir de là que ça part en vrille et que du coup notre système de récompense nous pousse à notre perte.
Ouais, bien sûr. C'est, C'est hyper intéressant cette réflexion. Je pense qu'on pourrait en parler vraiment des heures et des heures. Bon, malheureusement, on va pas avoir le temps là-dessus. Je vais avoir une dernière question, moi, qui va revenir sur Airship Sisters. C'est comment tu fais et comment l'écosystème Airship Sisters fait pour élargir son champ d'action, puisque on est d'accord que voilà, c'est agir, c'est bien, mais plus on agit en globalité et mieux c'est. Donc comment tu fais pour toucher plus de personnes?
Oui, alors c'est toute une réflexion, et Airship Sisters, pour moi, il répond à ces enjeux-là. Donc ça fait 4 ans qu'on y est, et on commence vraiment à avoir l'intégralité de ce qu'on veut apporter à la société. Donc pour faire ça, en gros, on a des sisters qu'on accompagne du stade de l'idée à la création d'entreprises ou d'intraprises à impact positif pour l'environnement. C'est un programme qui dure 1 an, et les sisters, on va essayer d'en avoir le plus possible. Les sisters, elles vont, à la suite des programmes et pendant les programmes, être actrices, donc elles deviennent ambassadrices de l'environnement auprès des territoires, qui est notre deuxième grande cible. Les territoires, à l'intérieur, on a 2 axes. On a un axe de lutte contre les discriminations, où ces sisters agissent comme rôle modèle de « tu veux faire ce que tu as, tu peux faire ce que tu veux ». Et elles apportent des solutions concrètes sur les territoires pour la protection de l'environnement. Et ça donne de l'espoir aux enfants, etc. Et le troisième cercle, ce sont les entreprises, qui elles aussi sont des acteurs de la transition importante. Et donc les entreprises, nous, ce qu'on essaye de faire avec les valeurs d'Airship, c'est qu'elles s'impliquent énormément dans le programme des Sisters. Et ensuite, elles sont prêtes à acheter les produits et les services à impact positif que les Sisters ont fait. Et donc comme ça, la boucle est bouclée. Et on a, avec des valeurs positives, à la fois les citoyens, donc ces femmes, les territoires, et on a des actions pour les femmes en insertion, les jeunes, les lycéens et le grand public, et les entreprises de n'importe quelle taille, même si elles sont très polluantes et qu'elles partent de loin, elles peuvent faire partie de ce mouvement et en toute bonne foi accélérer leur transition environnementale à travers le leadership des personnes qui l'ont.
Ok. Ouais, donc c'est très clair, et comme tu l'expliques bien, la boucle est bouclée, et tout le monde y trouve son intérêt. De toute manière, c'est pour l'intérêt de tout le monde d'aller en ce sens, donc c'est génial. Ok, en tout cas, merci beaucoup Déborah pour ces éclaircissements sur le projet. Est-ce que tu voudrais avoir un dernier mot à passer, quelque chose voilà qui te semble important de transmettre à ceux qui t'écoutent, même aux femmes peut-être plus en particulier, ou voilà, je sais.
Ouais, moi je dirais un message pour tous, hein, parce que c'est possible. Il faut surtout pas se dire que, enfin, je trouve que il faut pas tomber dans le climat anxiogène que les médias essayent d'apporter. Au contraire, on n'a jamais eu autant de solutions, autant de possibilités, autant d'opportunités. Moi, j'ai vraiment envie de faire en sorte que cette crise environnementale qui nous guette, elle soit riche d'opportunités pour inventer un monde où on est encore mieux, et où tout le monde vit dans le respect des autres et de la nature. Ça paraît idyllique, mais utopique, mais c'est possible, en fait.
C'est possible, ouais. L'utopie, c'est la vision de chacun, hein. Là où certains verront l'utopie, d'autres y verront des possibilités. Donc,
voilà.
En tout cas, moi, j'approuve. Complètement. Merci. Merci à toi, Déborah, pour cette interview. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Et à très bientôt, je l'espère.
Avec plaisir.
Merci, Déborah.